Bon, alors ce qu'on va faire ce matin, on va sortir nos téléphones, s'il vous plaît. Je crois que chacun de nous a un téléphone. Est-ce que chacun peut sortir son téléphone? Génération téléphone. Est-ce qu'on peut le sortir son téléphone? Est-ce que tout le monde a son téléphone à la main? Voilà. Est-ce que vous pouvez aller dans appareil photo? Allez-y dans l'appareil photo. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent peut-être, vous sortez vos téléphones, on va dans appareil photo. Arrivé à appareil photo, vous mettez l'appareil en face de vous. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vous qu'on puisse voir dans la photo. Voilà, comme quand on fait les selfies. Ça marche? Voilà, tout le monde est là? Bon alors, prenez une photo de vous-même. Prenez une photo de vous-même, comme vous voulez, la position qui vous plaît. Mais c'est une photo individuelle, hein. Pas les photos ensemble. Chacun prend une photo. Si vous avez deux téléphones, vous prenez une photo, chaque personne à son tour. J'aimerais que chacun ait une photo de lui-même sur son téléphone. Est-ce que c'est bon?
Yes.
Ok, parfait. Alors maintenant, regardez cette photo. Regardez cette photo et regardez cette photo comme si c'était une autre personne qui était en face de vous. Comme si vous aviez quelqu'un en face de vous. La différence, c'est que cette personne-là, vous la connaissez très bien. C'est-à-dire qu'à part Dieu, vous êtes la personne sur terre qui la connaissez. Vous la connaissez très bien. Vous connaissez ses joies, vous connaissez ses peines, vous connaissez ses projets, vous connaissez quand est-ce qu'elle est heureuse, vous connaissez quand est-ce qu'elle ne va pas bien. Vous connaissez quels sont ses projets profonds, quelles sont les choses qu'elle attend. Vous connaissez aussi où elle a désespéré, elle n'attend plus. Cette personne-là, vous la connaissez bien. Alors, cette personne que vous avez en face, on va prendre 5 minutes. Si vous aviez quelque chose à lui dire ce matin, par rapport à ce qu'elle a fait de sa vie jusqu'à ce jour, par rapport à peut-être ses rêves, les choses qu'elle a espérées, par rapport à ce qu'elle pense aujourd'hui, par rapport au projet, par rapport à ses sentiments, aussi par rapport à son caractère, par rapport à ses attitudes, ses habitudes, par rapport à ce qu'elle fait au quotidien, cette personne qui est en face de vous. Qu'est-ce que vous lui direz aujourd'hui? On prend 2 minutes, dites-lui quelque chose dans votre cœur, parlez à cette personne comme si c'était une autre personne. Mais vous la connaissez bien, cette personne. Personne à part vous ne la connaît bien sur cette terre. Alors dites-lui quelque chose à cette personne. Quel sentiment avez-vous à son égard? Que lui direz-vous aujourd'hui? Peut-être un conseil. Peut-être que vous allez l'encourager. Ou peut-être que vous allez la recadrer un peu. Peut-être que vous allez lui dire, bon, là c'était bien, mais l'autre c'était pas bien. Alors, je vous laisse 2 minutes. Parlez à cette personne, s'il vous plaît, c'est important. Parlez-lui, dites-lui quelque chose. Cette personne qui est en face de vous, qu'est-ce que vous lui direz? Dites-lui quelque chose. Dans la présence de Dieu, parlez-lui sincèrement, dans votre cœur. Faites un face-à-face avec lui. Et parlez-lui. Cette personne qui est en face de vous, qu'est-ce que vous lui direz? Peut-être qu'un conseil vous donnerez. Prenez le temps, c'est important. Parlez à cette personne dans votre cœur. Dites-lui quelque chose. Dites-lui quelque chose. Dites-lui quelque chose. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous voyez cette personne, son parcours, les actes qu'elle pose aujourd'hui? Peut-être sa relation avec Dieu. Peut-être ses engagements. Peut-être ses relations familiales. Peut-être ce à quoi elle aspire. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à cette personne? Alors vous voyez, Vous avez comme un regard de Dieu sur cette personne. Un regard de celui qui voit tout. Un regard de celui qui sait tout. Un regard de celui qui sent tout. Vous êtes aujourd'hui à la place de Dieu devant cette personne. Et depuis qu'il y a déjà presque un mois, nous parlons en ce moment de marcher dans la victoire. Marcher dans la victoire. Et quand tu regardes cette personne, par rapport à ce thème de marcher dans la victoire, qu'est-ce que tu peux lui dire à cette personne que tu as regardé il y a 2 minutes? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Je veux continuer dans ce thème de marchant avec toi, mais en abordant un petit point. Je veux parler de « Sois là où Dieu t'attend. » Sois là où Dieu t'attend. Et je vais revenir sur ces quelques points que Antoine a abordés, peut-être Alexis aussi. Lorsque nous prenons le livre de Un Roi, ou avant de prendre Un Roi d'abord, je vais vous dire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va prendre 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 5. 2 Corinthiens 13, 5. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Je m'arrête là. Le reste, je reviendrai plus tard. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est ce que nous venons de faire. Nous venons d'appliquer la parole de Dieu. Tu t'es examiné toi-même au miroir de ton téléphone où tu t'es vu. Alors tu t'es examiné toi-même pour savoir où est-ce que tu en étais. Tu lui as dit des choses à cette personne que peut-être Dieu aurait pu aussi lui dire. Mais la Bible dit que ce n'est pas d'abord à Dieu de nous examiner. C'est d'abord je veux l'entendre. C'est d'abord à nous-mêmes de nous examiner pour savoir si on est dans la foi. Alors on prend son téléphone, on prend sa vie et on se regarde. Et on s'examine soi-même pour le savoir. Et dans ce cas, il n'y aura que 2 personnes qui sauront comment tu es dans la foi. Il y aura le Seigneur Jésus lui-même et il y aura toi. Parce que tu aurais pris le temps de t'examiner. Le temps, c'est important. Vous savez, les entreprises font toujours chaque année des bilans. Nous aussi, nous devons faire des bilans. Nous asseoir et nous examiner pour voir où est-ce qu'on en est avant de continuer. Et donc, pour savoir quelle direction on va prendre en fonction du résultat de l'examen qu'on se serait fait sur soi-même. Donc, on va revenir sur Un Roi, chapitre 19, verset 4 à 5. Donc, nous connaissons cette histoire, Antoine en a tellement parlé durant des semaines. Élie qui, n'est-ce pas, fait descendre le feu, n'est-ce pas, nous avons l'Holocauste qui est brûlé par le feu, mélangé d'eau, nous avons les prophètes de Baal qui sont tués. Donc, c'est cette histoire. Et puis, il y a Jézabel qui se lève et qui dit, « Ah non, Élie, toi, tu as tué mes prophètes. Maintenant, le soleil ne se couchera pas. Que toi aussi, j'aurai ta vie. » Alors, Élie fuit, il s'en va au désert. On a vu tout ça. Mais je vais revenir sur quelques points. Quant à lui, donc Élie, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel. Prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. On s'arrête là. Il se coucha et s'endormit sur un genêt. Élie s'est regardé. Élie a fait un point. Élie a vu qu'il a eu des problèmes. Il y a eu des difficultés en Israël. Il se levait pour la gloire de Dieu. Il a fait tuer le prophète de Baal. Problème résolu. Mais il y a un autre problème qui se lève encore. Jézabel. Et là, Élie est fatigué, il n'en peut plus. Alors, il fuit. Et il marche dans le désert, et il dit, Seigneur, moi, j'en peux plus. Je suis fatigué. Les différents problèmes que j'ai vus, je suis fatigué. Quand je regarde ma vie, je suis fatigué. Élie est fatigué. Il s'observe et il est fatigué. Et la chose qu'il demande au Seigneur, c'est « Seigneur, prends ma vie. J'en peux plus. » Mais nous savons aussi la réponse que Dieu lui fait. On va avancer. 1 Roi 19, verset 10. Alors, Élie dit, juste avant, le verset qui est juste avant, avant qu'Élie ne réponde, Dieu lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie n'est pas à l'endroit où Dieu l'attend. Dieu lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ? » Ce n'est pas ici que je t'attends. Ce n'est pas ici que je pensais te voir. Dans le désert. Dans la vallée des larmes. Dans la vallée de la tristesse. Dans la vallée de la peur. Dans la vallée de la crainte. Dans la vallée du doute. Que fais-tu ici, Élie? Quand tu te regardes, tu es dans quelle vallée? Est-ce que tu es dans la bonne vallée? La vallée du Seigneur, la vallée qui te donne de la force et du courage, la vallée où tu marches, tu avances, la vallée où tu as l'espérance. Mais Élie n'est pas dans cette vallée. Élie est dans la vallée du désespoir. Il est dans le désert. La Bible déclare qu'il a fui au désert. Au désert où rien ne pousse, où rien ne fleurit. Plus d'espoir. Élie est dans le désespoir. Dans cette vallée. Et Dieu lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Alors, il raconte son histoire. Et Dieu lui dit, il lui repose la question une deuxième fois. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que Dieu repose la même question à Élie. Que fais-tu ici, Élie? Et Élie redonne la même réponse à Dieu. Que j'ai déployé ma force pour toi, Seigneur. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, et maintenant, on veut me tuer. Alors, je me suis enfui. Deux fois, Élie donne la même réponse. Le Seigneur lui pose la question deux fois, avec peut-être l'espérance qu'Élie va changer de réponse. Peut-être l'espérance qu'Élie va dire, oui, c'est vrai, Seigneur, tu as raison. Qu'est-ce que je fais ici, en fait? Non. Élie est tellement découragé qu'il donne la même réponse. Il dit, Seigneur, franchement, j'en ai assez. J'en ai marre. On veut me tuer, je suis fatigué. J'arrive plus à résoudre les problèmes. J'en ai résolu un. Les prophètes de Baal, un autre arrive, Jézabel. Fatigué des problèmes. J'en ai. Tous les jours, j'en ai. Des difficultés. Alors, vous savez, Antoine s'est arrêté là et on pourrait penser que la Bible dit que Élie, lorsque le Seigneur lui a parlé, il lui a dit, bon, va, et en allant, tu vas oindre deux rois, et tu vas te prendre un successeur. Alors, on pourrait penser que, effectivement, Élie est descendu, il a oint les rois, il a pris un successeur, et puis il s'est assis à la retraite. Et sa vie était finie. Plus de service à faire pour le Seigneur, il se décharge parce que Dieu l'a dit, va oindre quelqu'un d'autre, toi et moi, c'est fini, Élie, parce que tu as décidé de poser les armes. Mais non. Deux rois. Chapitre 1. La suite de l'histoire. Nous montre qu'en fait, Élie, lorsqu'il redescend et qu'il oint Élisée et qu'il va oindre les deux rois, Élie continue son ministère. C'est-à-dire que le temps où il a été avec le Seigneur, que Dieu lui a parlé, ça l'a renouvelé. Ça l'a fortifié. Ça l'a relevé. Et Élie a continué son ministère. Tu peux nous afficher le verset que je t'ai remis, s'il te plaît. 2 Rois 1, versets 9 et 17. C'est une histoire qui continue dans le livre. On est à un roi, que Antoine a lu. Alors là, on a deux rois. Et il dit, il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. En fait, Élie avait prononcé une parole contre le roi. Parce que le roi est tombé de son lit, le roi était malade. Et quand le roi était malade, le roi d'Israël, il a demandé à ses serviteurs d'aller faire appel à un autre Dieu pour savoir s'il vivra. Alors Élie, en passant, avait dit par la parole de l'Éternel que puisque tu vas chercher la guérison ailleurs, au lieu de la chercher auprès de Dieu, sache que tu mourras. Et alors, il n'avait pas dit directement au roi, mais il avait dit aux gens qui partaient chercher la bénédiction ou la guérison ailleurs. Et quand ils sont revenus voir le roi, ils ont dit au roi, mais on a croisé un homme qui nous a dit que si on part voir cet autre Dieu, tu vas mourir, roi. Le roi a dit, mais qui est cet homme qui vous a dit ça? Décrivez-le-moi. Ils ont décrit la personne et, le roi a compris que c'était Élie. Alors le roi a envoyé une armée à Élie. Alors il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta vers Élie qui était assis au sommet de la montagne. Il lui dit, homme de Dieu, le roi te dit, descends. Ça veut dire, viens me voir. Continuons. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Si nous continuons dans le texte plus bas, et Ézéchias envoya de nouveau vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, voici que dit le roi, dépêche-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et nous dévora, lui et ses 50 hommes. Ézéchias envoya encore un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta vers Élie et à son arrivée, il plia les genoux devant lui et lui demanda grâce en disant, homme de Dieu, veuille accorder un peu de valeur à ma vie et à celle de ces 50 hommes, tes serviteurs. Le feu est descendu du ciel et a dévoré les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes, même maintenant, veuillent accorder un peu de valeur à ma vie. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie pas peur de lui. Élie se leva et descendit avec ce chef vers le roi. Amen. Élie est resté un homme puissant, un homme fort, un homme qui fait descendre le feu. Parce que Dieu lui a dit, tu fais quoi ici? Ce n'est pas ici ta place. Tu as encore un service à faire. Tu as encore une onction à faire descendre. Et ce matin, le message que j'ai pour vous, c'est que Dieu a encore des choses à faire avec vous. Ne restez pas dans les vallées de larmes. Ne restez pas dans les vallées de détresse. Ne restez pas dans les vallées de souffrance, dans les vallées de pourquoi, dans les vallées de comment. Élie était aussi dans cette vallée. Mais quand Dieu lui a dit, tu fais quoi ici? Descends, va. Élie est reparti et il a poursuivi son ministère. Jusqu'à ce que son temps est arrivé. Le même Élie, arrivé devant le Jourdain, les versets plus devant, il frappa son manteau, le Jourdain s'ouvrit en deux. Il passa avec Élisée, le même Élie, qui était découragé, le même Élie, qui était près du suicide, le même Élie qui était près de la mort, le même Élie qui ne voulait plus rien faire pour le Seigneur. Lorsqu'il a été renouvelé, lorsque Dieu lui a dit, ta place n'est pas ici, va. L'onction qu'il avait était encore sur lui. Dieu ne l'avait pas rejeté. Parce qu'il était passé par un moment dur de sa vie. Dieu lui a rappelé qu'il était serviteur de Dieu. Et il dit dans ce verset, si je suis serviteur de Dieu, alors que le feu descende, et le feu descendit, qui confirma qu'il était serviteur de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans la vallée des pleurs, du deuil, de la souffrance, que tu n'es plus enfant de Dieu. C'est parce que Élie était dans une vallée de souffrance et de deuil qu'il n'était plus serviteur de Dieu. Il était toujours serviteur de Dieu. Et lorsqu'il a repris du courage, lorsqu'il a repris de la force et qu'il a commencé à marcher avec assurance, il a dit, si je suis serviteur de Dieu. Et aujourd'hui aussi, tu peux dire, si je suis fils de Dieu. Si je suis fils de Dieu. Tu pourrais dire à cette photo, que fais-tu ici? La photo que tu as prise tout à l'heure, tu pourrais lui parler et lui dire, que fais-tu ici? Dans ces interrogations, que fais-tu ici? Dans ce désespoir, que fais-tu ici? Dans ces péchés, que fais-tu ici? Fils de Dieu, enfant du roi des rois, promu à une destinée, sacrificateur du Dieu très haut, que fais-tu ici? Toi que Dieu a mis à part, que fais-tu ici? Toi en qui Dieu a mis toute son affection, tout son amour, à qui il a donné son propre fils pour ton sang, que fais-tu ici, Wilfried? Dans le désespoir, dans la crainte, dans les pleurs, dans les doutes, que fais-tu ici? Lève-toi et va. Continue ta route. Dieu t'attend devant. Il a encore des projets pour toi. Ce n'est pas fini. Il y a encore des choses à faire avec toi. Ce n'est pas fini. Ne reste pas dans cette vallée dans laquelle tu te meurs petit à petit à feu doux. Lève-toi et marche. Tu as encore une destinée à accomplir. Dieu a encore des choses à faire avec toi. Il n'en a pas fini. Mais ça ne dépendra pas de lui. Ça dépendait d'Élie, qu'il se lève et qu'il marche et qu'il obéisse à Dieu qui lui a dit « Va !» Élie se levait tout seul. L'ange de Dieu n'est pas venu lever Élie, il se levait tout seul. Souvent on prie « Seigneur, aide-moi !» Dieu te dit « Je t'ai déjà tout donné, lève-toi et marche !» Agis avec autorité, force, puissance, courage. Car Dieu est avec toi. Comme Dieu était avec Élie. Le même Élie qui était au désert en train de demander la mort, Dieu était avec lui. Le même Élie qui était en train de pleurer, Seigneur, Dieu était avec lui. Mais le jour qu'il a décidé de se lever et de marcher, à ce moment-là, le Seigneur a agi encore. Le feu est encore descendu. Le Jourdain s'est encore ouvert. Élie, le même Élie qui était en dépression. Un problème peut arriver. Mais le tout, c'est comment tu réagis dans la difficulté. Comment tu réagis dans le problème. Est-ce que tu demeures dans le problème? Est-ce que tu demeures dans la souffrance? Est-ce que tu demeures dans les pensées qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer? Eh bien, tu as la foi. Tu te dis, Seigneur, c'est encore possible. Je prends autorité au nom de Jésus, je me lève. Je refuse cette situation. Et je marche. Si je dois encore prier, je prie. Si je dois encore méditer, je médite. Si je dois encore chercher la face de Dieu, je la cherche. Et je la trouverai. Parce que l'Éternel est avec moi. Je me lève et je marche. J'avance. Élie n'est pas resté dans la dépression. Il n'est pas resté dans les pensées négatives. Il n'est pas resté à regarder Jézabel qui voulait le tuer. Non. Jézabel était toujours là. Mais Élie s'est levé. Élie a avancé. On va prendre Romains 6, verset 10. Verset 11, pardon. Romains 6, verset 11.
De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, ce qui est important ici, pourquoi j'ai choisi ce passage, c'est dans la manière dont ce passage a été écrit. Il dit, de la même manière, vous aussi, considérez-vous. Bon, je donnais une autre version, mais c'est la même chose. Dans le second, on dit, regardez-vous. Regardez-vous. Considérez-vous. Regardez-vous. C'est pourquoi j'ai demandé de prendre des photos. Comment vous vous regardez vous-même? Comment vous vous considérez vous-même? Quelle pensée avez-vous de vous-même? Regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort à la détresse. Regardez-vous comme mort au doute. Regardez-vous vous-même. Dieu a un regard différent sur vous que celui que vous avez de vous-même. Parce que dans le sang de son Fils Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés et purifiés. Quel que soit ce que tu peux vivre, sache que le sang de Jésus te sanctifie et te purifie de toute œuvre morte. Mais comment tu te regardes toi-même? Comment tu te considères? Est-ce que tu penses que tu ne vaux rien? Est-ce que tu penses que tu ne peux plus rien faire? Est-ce que tu penses que c'est fini? Est-ce que tu penses que ce n'est plus possible? Est-ce que tu penses que cette situation-là n'a pas de solution? Que penses-tu? Comment regardes-tu ta situation? Comment regardes-tu ta vie? Quelle parole tout à l'heure est sortie de ton esprit quand je t'ai dit de regarder ta photo? L'as-tu encouragé? L'as-tu dit, c'est vrai que ce n'était pas bien ce que tu as fait la dernière fois, mais tu peux faire mieux? Oui, tu peux faire mieux. Élie pouvait faire mieux. C'est pour ça qu'il s'est levé, il est reparti pour faire mieux. Aujourd'hui, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Il faut donc se regarder soi-même avec le regard de Dieu. Un regard où tout est possible. Un regard qui est encore possible. Un regard qui a encore de l'espérance. Un regard qui dit que je ne suis pas arrivé au bout. J'ai encore des choses à accomplir. Quel que soit le sujet, et j'insiste là-dessus, quel que soit le sujet, que ce soit pour les études, que ce soit pour les mariages, que ce soit pour l'église, les services, que ce soit dans la famille, que ce soit ceux qui ont des problèmes de famille, peut-être qu'il y a des enfants que vous ne voyez plus, peut-être qu'il y a des divisions dans les familles, peut-être qu'il y a des gens qui veulent des choses, mais n'arrivent pas à les obtenir. Quel regard as-tu sur ça? Je laisse tomber, c'est fini, c'est plus possible. Ou tu te dis, c'est encore possible. Dieu peut encore le faire. Et pour cela, il faut que moi, je pense déjà que c'est possible. Parce que c'est la foi qui sauve. Le juste vivra par la foi. Si tu n'as plus de foi, Dieu n'agit plus. Si tu n'as plus de foi dans ce que tu espères, parce que la foi, on dit que c'est une ferme assurance, une ferme. Des choses que l'on espère. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Ça veut dire que tu penses déjà que c'est possible. Tu ne le vois pas encore se réaliser, mais tu te dis déjà que c'est possible. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Je prendrai un seul, qui est un exemple que j'aime bien. La dame à la perte de sang, qui se disait, c'est possible. Je touche seulement le pan de sa robe. C'est possible que je sois guéri. Personne ne lui avait dit. Jésus-Christ avait-il prêché, si quelqu'un me touche, il sera guéri. Jésus n'a jamais dit ça. Mais elle a eu la foi. Elle s'est dit, c'est possible. Si je le touche, je serai guéri. Parce qu'elle avait cette assurance que rien qu'en le touchant, elle pourrait être guérie. Donc aujourd'hui, dans tous ces projets, dans tous ces sujets, est-ce que cette personne que tu as vue sur ton téléphone a encore la foi? Est-ce qu'elle a encore l'espérance?
Est-ce qu'elle se dit que c'est encore possible? De Timothée 1, 1 à 8. Voyons un deuxième exemple d'une personne qui était aussi dans un moment difficile. Timothée, serviteur de Dieu, qui dirigeait une église. La part de Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, pour la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes. Je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je regarde en effet le souvenir, je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité en ta grand-mère, Loïse, et ta mère, Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Et je suis persuadé que tu l'as reçu. Paul a dit que je suis persuadé, cette même foi qui habitait en ta grand-mère, en ta mère, habite aussi en toi. Mais il y a un problème, Timothée. Tu ne marches pas avec cette foi qui habite en toi. Ranime-la. Ranime cette foi. Mets-la à l'épreuve. Ne reste pas, et je le dis clairement, ne reste pas à genoux dans la prière. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour passer à l'action. Je le dis, il y a un temps pour prier et il y a un temps pour se lever et agir. Tu pries tous les jours à la maison, tu tournes, c'est pas là que le travail va venir. Si tu pries, tu te lèves, tu cherches le boulot, Dieu t'ouvre une porte. Et là, tu peux rencontrer quelqu'un. Et Dieu a toujours agi ainsi, toujours. Il y a le temps de la prière, il y a le temps où tu te lèves, et Dieu t'ouvre la porte par laquelle tu passes. Mais ce n'est pas étant dans ta chambre que la porte va s'ouvrir. C'est en te levant, comme aime dire Alexis, en prenant position, mais en marchant, en agissant, en posant des actes. Et tu verras la porte que Dieu va t'ouvrir. Je milite ce matin pour que, à la prière, tu puisses additionner l'œuvre. Quel que soit le projet.
Alors, je vais terminer. On va lire Romains chapitre 8. Voilà. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que grâce à celui qui nous a aimés. Quel que soit le projet, on a dit qu'on marche dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire simplement que Dieu t'aime. Et il a dit, j'ai pour toi des projets de et non de. J'ai pour toi des projets de et non de. J'entends pas très bien. J'ai pour toi les projets de et non de. C'est ce qu'il a dit à Élie.
Tu fais quoi ici avec ce projet de malheur, de vouloir mourir? J'ai pour toi les projets de paix. Et quand Élie se levait et repartit, il est rentré dans les projets de paix. Il a fait descendre le feu, il a ouvert le Jourdain, il a fait des miracles. Mais ça dépend de l'attitude que nous avons. Ça dépend de la pensée que nous avons. Ça dépend de comment nous regardons les événements que nous vivons. Ça dépend de comment nous nous regardons nous-mêmes. Est-ce que nous nous condamnons? Est-ce que nous nous accusons? Oh, j'aurais dû faire ça. Oh, j'aurais pu faire ça. Tu es là où tu es aujourd'hui. Fais avec ce que tu es. Tu ne vas pas changer ton passé. Mais tu peux changer ton présent et ton avenir. Tu peux changer ton présent et tu peux changer ton avenir. Sois là où Dieu veut que tu sois. Ne sois pas dans la vallée, dans le désert. Sors du désert. Et commence à regarder la vie comme Dieu la regarde, que c'est encore possible. Peut se lever, s'il vous plaît.